nous et ça du talent du pont de fer. La vie se triste, la vie serait moche. Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Mitieu.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence, avant-dernière émission de l'année, avec au programme aujourd'hui deux auteurs qu'on aime bien. Il s'agit d'Arnaud Catherine qui nous revient avec un roman destiné aux jeunes adultes qui s'intitule Octave et qui est paru dans la collection R chez Robert Laffont, et Violaine Béraud pour un étonnant roman paru chez Buchet-Chastel et qui s'intitule « C'est plus beau là-bas ». Voilà, on va commencer tout de suite avec Arnaud Catherine, c'est Radio Libertaire, c'est 89.4, c'est Idéaux et débat. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de retrouver Arnaud Catherine. Arnaud Catherine qui nous propose le dernier opus de la trilogie qui est paru dans la collection R chez Robert Laffont. Et ce livre s'appelle Octave. Il faut dire un mot de la couverture quand même, Arnaud Catherine, parce qu'elle est très très belle.
Oui, bonjour. D'abord, la couverture, c'est une déclinaison de l'illustrateur Kibé. Kibé est à nos côtés depuis le début de cette trilogie. C'est mon éditeur qui avait déniché ces magnifiques dessins qui ne sont pas sans évoquer des lignes épurées à la Cocteau.
Tout à fait.
Voilà, moi j'avais le désir pour la couverture de romance du profil très minimaliste du héros. Et puis pour les nouvelles vagues, le tome 2, on avait décliné ça cette fois avec une fille, Marilyn, qui était l'une des héroïnes des nouvelles vagues. Et là donc j'ai demandé à Kibé un baiser. Donc nous avons deux visages. La particularité de Kibé, c'est qu'il vraiment il dessine d'un trait, toujours d'un trait seulement. Et donc, il y a deux visages proches de s'embrasser sur ce nouvel opus, avec une très jolie couleur. Je ne sais pas pourquoi, je suis très obsessionnel des couleurs. Et donc, à chaque fois, j'ai demandé à mon éditeur des couleurs précises. Et là, je voulais un vert très doux. Voilà,
Mais vraiment, la couverture est superbe. Alors, je sais bien qu'en radio, ça ne peut pas passer, mais allez voir ce livre en librairie, feuilletez-le. Il est agréable aussi à tenir. C'est un bel objet. Et je crois que c'est important aussi. Alors, c'est un bel objet. Et puis, on va parler de son contenu, Arnaud Catherine, parce que moi, c'est un livre qui m'a touchée. On y retrouve donc ces jeunes adultes étudiants au moment de la période justement du Covid, avec ce qu'ils ont pu traverser. C'est un roman à plusieurs voix. On va entendre Vince, on va entendre Marilyn, on va entendre Octave, et puis on va les retrouver tous réunis à la fin. Mais pour commencer, le livre va s'ouvrir sur un article de presse, un fait divers qui annonce la mort d'un jeune homme qui est Lilian.
Oui, Lilian, c'est un personnage qui apparaissait déjà dans la série. C'est le personnage qui martyrisait Vince. C'est l'homophobe de service dont on découvrait au fur et à mesure que les choses, j'allais dire, n'étaient pas si simples. L'homophobie est souvent due à une haine de soi. Que les gens reportent sur l'autre, ils prennent pour cible l'autre pour ne pas se haïr eux-mêmes. Et Lilian, c'était ça, sa contradiction, c'était ça, sa problématique névrotique. Et effectivement, le troisième tome s'ouvre sur sa mort brutale. Et page suivante, 6 mois plus tôt, on va remonter pour faire un peu la généalogie, entre autres. C'est un des fils du livre, pas le seul, mais pour faire la généalogie de ce suicide. Et en fait, ça nous mène aux sources d'inspiration de ce tome 3. J'anticipe peut-être une de vos questions, même très certainement. Mais c'est vrai que j'ai écrit ce tome 3 pour deux raisons. D'abord, et c'est la première fois que ça m'arrive et ça me charme, et oui, je trouve ça charmant, les lectrices et les lecteurs me l'ont demandé. Mon éditeur m'avait dit, pour la précédente série À la place du cœur, il faut absolument que tu ailles sur Instagram, parce que c'est là que tu pourras être au contact direct de ton lectorat. Je l'ai écouté, j'y suis allé, et c'est vrai que je corresponds beaucoup avec mes lectrices et mes lecteurs qui m'envoient leurs impressions de lecture. C'est très agréable, ce contact direct, un peu comme quand on fait une rencontre ou une signature. Et c'est vrai que, immodestement, ils me demandaient une suite, alors que moi, j'y avais pas du tout pensé. Et ils me demandaient notamment des éclaircissements sur ce personnage Octave, qui est le garçon que Vince et Marilyn ont aimé. Et c'est le briseur de cœur, quoi. Et les lectrices et les lecteurs me disaient, on ne comprend pas ce personnage. Mais qui est ce personnage? Et je leur répondais à chaque fois, moi non plus, je ne comprends pas ce personnage. Et à partir d'un certain moment, je me suis dit, bon, on va lui donner la parole. Et moi, je vais me coller à ça et essayer de comprendre le mystère Octave. Donc voilà, ce tome, il est là, au premier chef, pour faire le jour sur un personnage d'une cruauté un peu mystérieuse, et j'espère que je l'ai bien défendu et qu'on comprend enfin ce personnage. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, vous savez comme moi ce qu'on a traversé avec cette pandémie, il y a eu les confinements, et à un moment donné, c'était pour au milieu du deuxième confinement, je me suis fait cette réflexion qu'on avait beaucoup parlé du personnel soignant et de leurs affres, ce qui est tout à fait normal. On avait beaucoup parlé des parents qui étaient en télétravail, avec leurs enfants dans les pattes, qui n'arrivaient pas à bosser, ce que je peux comprendre. Et on avait oublié, et très tardivement parlé, du sort des étudiants. Les étudiants, qu'ils soient français ou étrangers, arrivés sur le territoire dans des chambres à la Cité U de 5 mètres carrés, qui se sont retrouvés avec cette promesse de la vraie vie qui commence, la vie étudiante, les rencontres, voir ailleurs, apprendre, tout ça a été foutu par terre par ces confinements successifs. Et les études qui maintenant ont commencé à apparaître dans la presse montrent qu'ils ont vraiment, vraiment été durement touchés. Il y a des symptômes dépressifs absolument hallucinant, des tentatives de suicide, des chiffres qui ont explosé. vraiment, ils ont été mal, 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 et il y a des séquelles très, 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 très perceptibles dans cette population. Voilà, c'est un peu ce que dit Marilyn dans le livre. On leur avait promis l'âge des possibles et ils n'ont affronté que des impossibles. Et je voulais rendre justice à ce qu'ils ont vécu. Il se trouve que mes personnages, ils grandissent au fur et à mesure de la série, et il se trouvait que ils étaient en âge d'être étudiants. Et je me suis dit, ça tombe bien parce que j'ai envie de parler de ce qu'ils ont traversé. Ça a été plus ou moins dur pour nous tous. Des gens ont d'ailleurs connu des deuils très durs. Mais vraiment, eux, ce qu'ils ont vécu d'un point de vue psychologique, ce qu'ils ont enduré, ces cours en distanciel, cet enfermement parfois dans de tout petits espaces, être privé de relations sociales à un moment où c'est si constructeur et fertile, je voulais parler de ça. Alors, je me suis mis à interviewer un certain nombre d'étudiants que j'avais autour de moi, parce que maintenant, c'est ma démarche. C'est comme quand j'avais créé ce personnage de garçon trans dans les Nouvelles Vagues, j'avais tenu à interviewer des garçons trans pour pas raconter n'importe quoi. Et donc, je me suis mis en rapport avec des étudiants qui m'ont raconté un peu ce qu'ils ont traversé pendant le premier et le deuxième confinement. Et je voulais que ce livre soit le reflet de cette chose qu'on a un petit peu, qu'on n'a pas regardé dans un premier temps, et qui pourtant était extrêmement dur.
Non, me regarde pas dans les yeux, je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux, que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu
Tout autour de moi, tout autour de moi, tout comme une extase.
Oui, alors il y a effectivement cette dimension psychologique, mais je me permettrais de rajouter, Arnaud Catherine, si vous le voulez bien, qu'on découvre également dans Octave, donc ce roman paru dans la collection R chez Lafon, on découvre aussi la précarité économique de ces étudiants, parce que qui dit étudiant dit job étudiant, et avec le Covid, tous ces petits boulots ont été supprimés, donc en plus d'être seul, de ne pas avoir cours, de ne pas être en relation avec l'extérieur, ils se retrouvaient dans une misère économique très très importante, et d'ailleurs certains des personnages du livre vont être obligés d'aller dans des distributions alimentaires pour pouvoir survivre ou faire de la récup à la sortie des supermarchés. Enfin, ça a été très très difficile même à ce niveau-là.
Vous faites bien de parler de ça, et effectivement, ce sont des motifs du livre, et j'ai beaucoup enquêté aussi là-dessus, notamment via une asso qui est absolument géniale, qui s'appelle Copain. Et ce sont des étudiants qui distribuent des paniers alimentaires à d'autres étudiants. Ils sont partis du principe que c'était peut-être un peu moins inhibant d'aller dans une association tenue par des gens de leur âge. Voilà. Et effectivement, on a vu des files d'attente pas possible pendant cette période. Vous avez tout dit, ils ont perdu leur petit boulot. Les prix des loyers sont atrocement chers. Ils sont tous obligés, notamment pour les cours en distanciel, d'avoir des connexions Wi-Fi, donc de payer pour suivre leurs cours. Quand ils n'avaient pas deux cours en distanciel en même temps, bon, ça c'est anecdotique, mais ça a été quelque chose à gérer aussi pour eux. Et donc effectivement, une précarité économique dingue. Pour eux, beaucoup d'étudiants qui sautaient des repas, dont une malnutrition. Il y a eu beaucoup de problèmes de ce genre, effectivement, et beaucoup d'entraide, et beaucoup d'associations, mais aussi de restaurants, hein, qui du coup ont rassemblé leurs invendus pour essayer de donner un maximum à ceux qui en avaient besoin. Et c'est vrai donc que c'est une population qu'on n'était pas forcément habitué à voir dans les banques alimentaires. Hein. Et ça a été très très difficile. Vous avez parfaitement raison d'en parler, ouais.
Alors, le livre s'ouvre sur l'article qui relate la mort de Lilian. Au niveau écriture, justement, ce choix de commencer par un élément dramatique et de révéler ce qui va advenir du personnage, ça met tout de suite dans une ambiance particulière, surtout qu'on va remonter, comme vous l'avez évoqué, dans le temps, quelques mois auparavant, mais d'emblée, vous situez la tonalité du roman dans quelque chose de très, très dramatique.
Mais c'est cette période qui m'a inspiré, parce que c'est vrai que romance, c'est une série qui, comme le dit ce mot romance, hein, qui est une sorte de cliché sur lequel je voulais jouer aussi, ça m'amuse souvent de prendre à bras le corps des clichés et d'essayer de leur injecter un peu plus de perspective et de poésie que l'archétype ne le voudrait, mais cette série, elle suit quand même les premières fois, les premiers émois d'une bande d'ados, et c'est quelque chose, d'ailleurs, que j'assume parfaitement, qui est assez une entreprise romanesque assez romantique. Mais cette période ayant été, cette période de pandémie ayant été ce qu'elle a été, et ayant infligé de telles affres à cette population, à cette jeunesse, je voulais frapper fort dès le début. Parce que quand je vous parlais de tentatives de suicide et de syndrome dépressif, ce sont vraiment pas des chiffres anecdotiques. Voilà, donc je voulais commencer le livre un peu durement, mais pour affirmer ça, pour affirmer que on n'a pas voulu voir tout d'abord, mais que les tragédies se sont nouées, ont eu lieu pendant cette période. Voilà. Donc c'est pour ça que ça commence par la disparition d'un personnage. Et après, bien sûr, c'est un fil rouge, un fil tragique rouge, mais autour de ce fil vont venir se tisser l'issue de ces amours possibles ou impossibles qui ont fait le nid des deux premiers tomes.
Alors, effectivement, Lilian est ce personnage un petit peu emblématique qui va cumuler toutes les difficultés qu'on évoquait, qu'ont pu traverser les jeunes en période de Covid. Mais il y a les autres personnages. Et on commence avec Vince. Ensuite, il y aura Marilyn, donc, qui ont tous les deux aimé profondément, intensément et violemment Octave, qui sont tous les deux dans le désarroi amoureux, chacun à sa manière.
Et tout de suite, j'allais dire, on sent l'importance des références littéraires parce que vous mettez énormément dans la bouche de Vince des propos de Colette et surtout de Barthes et bien sûr fragments d'un discours amoureux.
Oui, oui, bah ça c'est la Bible, hein, il me semble. On pourrait citer tellement d'autres ouvrages sur la passion amoureuse, bien sûr, de Proust à Annie Ernaux. Mais moi, j'avoue que les fragments du discours amoureux, dans l'originalité de sa forme, notamment, c'est donc un abécédaire qui est vu sous l'angle de la sémiologie. Voilà, c'est pas un roman, mais ça se lit tellement comme un roman. On s'y reconnaît tellement. Y compris dans des comportements que je dirais avec un sourire pathologique ou symptomatique en tout cas, parce que l'amoureux fou, celui qui brûle de passion, c'est la passion dont parle Barthes, hein. C'est pas tant l'amour que la passion, ça conduit à des comportements, que ce soit l'attente d'un coup de fil ou maintenant stalker quelqu'un sur les réseaux, on se retrouve parfois dans des situations un petit peu pathétiques et dont Barthes d'ailleurs fait des choses assez comiques parfois. Moi, c'est ma Bible. Et j'ai voulu donner cette Bible à Vince. Il est fils de libraire. Sa mère est une femme assez formidable.
Ouais, chouette, oui.
Et elle lui met dans les mains tout ce qui peut, peut-être pas le guérir, parce que je crois pas que la littérature guérisse, mais elle aide à traverser, elle aide à survivre, elle aide à se tenir plus droit. Et c'est vrai que voyant son fils dans un tel état de désespoir amoureux, elle lui a mis Barthes dans les mains, elle lui a mis Feu aussi de Yourcenar dans les mains, elle lui a mis les ouvrages de Anne Dufour-Mantel, En cas d'amour,
oui,
dans les mains. Et ça l'aide considérablement, Vince. Et il va essayer, au mieux d'ailleurs, de faire passer ses livres, parce que je crois qu'il y a une belle chaîne humaine et littéraire qui consiste à se passer des livres en espérant que l'autre va y trouver la même fertilité que nous y avons trouvé. Alors, Barthes est beaucoup là.
Oui.
Et j'avoue que je me suis plu à organiser une matière, c'est Monsieur Destré, le professeur Monsieur Destré à la fac, qui enseigne les fragments du discours amoureux au groupe de TD. Donc Barthes, par clin d'œil, traverse un petit peu tout cet ouvrage. Vince sait bien que c'est pas forcément des réponses qu'il va trouver là-dedans, mais plutôt, et c'est ça la vertu littéraire sans doute, des échos à ce qui tourne en roue libre dans sa tête. Les livres peuvent nous montrer les venelles et les impasses et nous aider à nous retourner et à retrouver un chemin, un sentier peut-être, ou une grande route. Voilà.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir, jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir. Être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr? Je viendrai les penser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
Un fond de tristesse qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher, mais tu sais, toi tu connais. Comment ouais, je suis épuisé.
Pose sur mon épaule tes peines et tes pleurs.
deviendraient les pensées. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. On nous dit tenir toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les penser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
Oui, et d'ailleurs, Monsieur Destrée sera également dans la transmission, puisqu'il lui conseillera de lire Hervé Guibert.
Monsieur Destrée est assez culotté.
Oui.
En même temps, il a affaire à des étudiants, hein. Il n'a pas affaire à des enfants ou à des primaires. Et donc, ouais, il va lui suggérer de lire Le Fou de Vincent, qui est une œuvre de Hervé Guibert qui est assez audacieuse,
oui, quand même.
Assez trash par certains aspects, parce que Guibert y aborde la sexualité sans phare, sans édulcorer. Mais il lui dit aussi que Fou de Vincent, et c'est ce que je pense, est un livre très cru, mais un livre profondément romantique. C'est le livre d'un très grand amour. Ça, c'était le grand talent de Guibert, d'être cru, d'être, oui, de parler de la sexualité sans métaphore pudibonde, mais de transmettre une grande et belle sentimentalité, qui est la chose que Barthes voulait remettre à l'honneur, hein, avec les fragments. Il disait toujours que avec mai 68 et cette très heureuse révolution sexuelle, le sentiment était quand même devenu une chose qu'on pouvait moquer. Et avec les fragments, il voulait remettre à l'honneur un certain romantisme, le romantisme werthérien, et puis la sentimentalité, cette chose qui est pas si ridicule que ça, qui est au contraire très exaltante à traverser et à vivre. Et il y a ça chez Guibert. Passer le cru, il y a ça. Alors voilà, Vince va se jeter sur ce livre et il va y trouver quelque chose sans comparaison aucune, évidemment. Je ne me comparerai jamais à Guibert. Mais Vince va y trouver quelque chose que j'aimerais que mon lectorat trouve dans mes livres. C'est-à-dire que j'essaye de dire la vérité, quoi. J'essaye de dire les choses telles qu'elles sont sans prendre mon lectorat pour des gens que je pourrais choquer, froisser ou trop secouer. Je crois qu'à dire la vérité, on ne peut pas être violent. C'est le silence qui est violent. Mmh. Et pour parler d'amour, il faut parler de sexe. C'est pareil et c'est beau. Voilà. Et il n'y a rien de choquant. La seule chose qui est choquante, c'est la violence. C'est une violence subie. C'est les questions du consentement dont on parle beaucoup en ce moment. Mais sinon, c'est quelque chose de beau. Il n'y a rien de trop cru. Surtout que mon lectorat, il n'est pas tout jeune non plus. Hein.
Non, et puis Vince va cheminer au travers de ses différents ouvrages. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir ce parcours de ce jeune homme étudiant en lettres qui veut se débarrasser d'Octave, qui veut passer à autre chose et qui n'y arrive pas, et qui est dans cet amour, dans cette passion qui la dévore encore, qui va, donc on ne va pas déflorer l'histoire, mais qui va essayer de cheminer, et ce chemin est un chemin d'authenticité qui, moi, m'a beaucoup touchée. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance qu'avait Instagram pour vous dans votre rapport au lecteur. Instagram est très présent également dans le roman, dans Octave, et ça donne justement cette dimension d'authenticité. Ça apporte du réel, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de vrai.
Oui, et puis il y a beaucoup de choses inutiles sur les réseaux. On se surprend tous à perdre un peu notre temps de temps en temps. Mais moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont belles. Il y a notamment des gens qui se révèlent à la photographie. Il y a des gens qui ont un art particulier pour allier des photos à des citations dans leur poste. c'est pas que inintéressant, moi, je trouve, les réseaux. Et puis, les gens s'y révèlent d'une façon parfois un peu gênante et embarrassante, hein, ça, c'est sûr. Mais il y a des belles saillies, je trouve. Et donc, moi, dans mes romans, j'aime bien utiliser ça. Tout comme j'aime bien voir ce qu'un personnage, on en avait déjà parlé précédemment ensemble, mais j'aime bien voir ce qu'un personnage révèle de lui dans une lettre, au téléphone, de visu, dans un mail. On ne dit pas les mêmes choses selon qu'on s'exprime sur différents supports. Mais sur Instagram ou sur Facebook ou sur les réseaux, c'est pareil. La musique de ce qu'on a à dire va sonner différemment. Et bon, et puis au passage, moi, comme j'aime bien prendre des photos, je casse dans mes livres certaines de mes photos que j'aime bien, donc je trouve ça ludique. Et puis, je trouve que ça enrichit le rythme de lecture. Parce que quand on passe d'un récit, d'une narratologie traditionnelle, à tout d'un coup des mails ou des textos ou des posts Instagram qui s'enchaînent, le rythme de lecture s'envoie bousculer. On accélère, on décélère. Et moi, ma hantise, ce serait d'ennuyer les lecteurs et les lectrices. Donc, j'aime bien, de façon un peu inopinée, surprendre en balançant une image, un post, un mail. Voilà, je trouve ça, du point de vue de la narratologie, très intéressant d'aller explorer ces choses qu'on pourrait juger a priori ingrates ou aromanesques, apoétiques, et qui, à mon avis, ne le sont pas. Voilà. Qui sont beaucoup plus poétiques et intéressantes, narrativement parlant, que ce qu'on imaginerait. Et alors, si ça fait l'authentique, enfin, si ça, oui, si ça rend la révélation du personnage authentique, tant mieux, mille fois tant mieux, et merci.
Oui, moi, ça m'a particulièrement frappé à propos justement de ce professeur, Monsieur Destré, dont on sait peu de choses, puisqu'on sait uniquement ce que peut en dire Vince, et puis il y a quelques bribes de dialogue, mais qui sont quand même assez restreintes. Mais par contre, le découvrir de par ses posts, de par ses photos, c'est particulièrement intéressant. Ça, fait, oui, ça nous puis, donne à voir le personnage, effectivement.
Et puis, vous l'avez dit, donc, il y a ce fil tragique qui traverse le livre s'agissant de Lilian, mais on retrouve quand même Vince tel qu'on l'a toujours connu. C'est-à-dire, c'est un personnage que je veux un tout petit peu comique. C'est un personnage qui exagère, qui se prend les pieds dans le tapis de ses histoires. Bon, et alors là, qu'est-ce qu'il va encore nous inventer? C'est un peu comme ça, moi, que j'aime retrouver Vince. Qu'est-ce qu'il va encore nous inventer? Là, il s'est inventé que pour mieux oublier Octave, il allait vivre une histoire avec son prof. Alors, il demande préalablement à sa mère quelle est la législation en France. Parce que il a entendu parler de Mourir d'aimer. Il a vu The Teacher, qui est une super série américaine, mais où la teacher, elle termine en prison quand même, parce qu'elle a eu une relation avec un de ses étudiants. Bon, donc sa mère lui explique qu'on est en France, que tout le monde est majeur dans l'histoire. Bon. Une fois qu'il a pris ses précautions, il se dit qu'il va partir à l'assaut de Monsieur Destré. Bon. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous raconter. Non, sinon que voilà, il s'invente quelque chose dont on pressent par avance que c'est hautement improbable. Mais ça y est, j'ai retrouvé mon idée. Se lançant à l'assaut de Monsieur Destré, il va essayer de le deviner. Avant de faire sa connaissance, il va essayer de le deviner au travers de ses posts. Donc il va dépiauter chacun des posts pour faire parler les images, pour savoir s'il est célibataire, s'il est marié, s'il est avec un garçon ou une fille, qui est cet enfant sur telle photo. Est-ce que c'est son neveu? Est-ce que c'est son fils?
Est-ce que c'est lui?
Voilà, est-ce que c'est lui quand il était jeune? Donc, je me suis amusé à mettre en scène Vince. Mais nous, on a pu faire ça, hein, certains d'entre nous, que ce soit pour des raisons amoureuses ou pas. Essayer de faire parler les images et les posts pour découvrir une personnalité derrière une page Instagram.
Les amis, la vie, la mort, le lycée, Gabriel Fort, vient l'automne, Lyon, la Bretagne, on s'étonne, comme on s'éloigne, c'est plus comme avant, mais on fait semblant, on est loin maintenant. Les amis, ce qu'on déçoit, t'étais mal, j'étais pas là, le gâchis, les SMS, la colère, comme on se blesse, qu'est-ce qu'on s'aime pourtant, est-ce qu'on se reprend ? on va loin tellement. Les amis, ceux d'un été, y a plus rien à partager. Arcachon, c'était comment la maison, proche océan. Est-ce qu'on s'aime vraiment? On fait plus semblant, on est loin d'avant. Les amis, fin de tournée, les péages, café Subway. N'oublie pas ton violoncelle et on se donne des nouvelles. On s'aimait pendant, c'est plus le moment, on est loin maintenant. Les amis qui disparaissent sans raison, juste par paresse. Un beau jour, on les recroise, on se dit qu'ils ont vieilli. Dire qu'on s'aime vraiment, on fait pas semblant, mais tout se distend. Les amis, ce qu'on regrette, ceux qui sautent par la fenêtre, ceux qui tiennent nos mains serrées des années, quoi qu'il advienne, amis survivants, plus beaucoup de temps, on est vieux sûrement.
Alors, vous évoquiez l'importance des différents supports et comment justement on peut découvrir des choses de quelqu'un au travers de ses écrits, au travers de sa gestuelle, au travers de sa voix. Et la voix, elle est présente aussi dans Octave, Arnaud Catherine, parce que la partie consacrée à Octave, parce qu'on va enfin venir à Octave après être passé par Vince et Marilyn, Octave, on va le découvrir et... on va le découvrir comme un étudiant en médecine qui est bénévole pour une association d'écoute d'étudiants, et avec ce rapport particulier justement de l'écoute, de la voix, de recueillir les confidences de l'autre dans le plus parfait anonymat. Et ça crée aussi quelque chose de particulier, cette position.
Alors là, on rejoint un double objectif de ma part, qui était de témoigner encore un peu plus avant de ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire qu'effectivement, les plateformes d'écoute ont eu moult appels. Les étudiants étaient mal, et parfois, ne serait-ce que quand la nuit tombait, on le sait, c'est le moment le plus angoissant quand la nuit tombe pour plein de gens. Et donc, cette plateforme qui est ouverte exclusivement le soir jusqu'à tard recevait beaucoup, beaucoup d'appels. Et je voulais parler de ça, de ces étudiants qui bénévolement s'engagent, qui sont formés, hein, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi pour pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Donc ces étudiants sont formés et ils viennent essayer de porter secours à d'autres jeunes qui sont dans le malaise, dans des malaises qui sont parfois terrifiants, ou parfois dans des malaises qui sont juste l'isolement, la solitude, l'envie de parler. Toutes les raisons peuvent conduire un jeune à appeler ces plateformes. Les plateformes elles-mêmes le revendiquent. Hein. Il n'y a pas besoin d'être sous le coup d'une tragédie. On peut appeler tout simplement parce qu'on se sent seul. Donc je voulais raconter ça, c'est comme les banques alimentaires. Hein. Je voulais un petit peu que le livre soit le reflet de tout ce qui est quand même assez beau qui s'est passé pendant cette période, à savoir que l'être humain... n'est pas qu'un sale égoïste individualiste, l'être humain est capable de s'engager pour aider l'autre. Et ça, c'est bien, je trouve, de mettre la lumière sur ce que tous les gens font de bien. Et le deuxième objectif, c'était que je sentais bien que mon lectorat avait une piètre opinion de ce Octave. Et moi-même, je partais avec des a priori négatifs. Et évidemment, comme j'ai l'esprit de contradiction, mais c'est peut-être ce qui nous meut quand on fait de la littérature, hein, on a envie de renverser les clichés, les stéréotypes. Je voulais montrer un Octave qui est pas du tout celui qu'on pense. Donc Octave, c'est quelqu'un qui a bien conscience qu'il a écrabouillé quelques cœurs. C'est quelqu'un qui est bien conscient qu'il est pour l'instant assez peu doué en amour. C'est quelqu'un qui a du mal à se supporter et qui à un moment va se secouer. Il va se dire, plutôt que de briser des cœurs, si j'essayais de contribuer à en réparer certains. Et donc, quand on le découvre, effectivement, de nuit, il part pour se rendre à cette plateforme d'écoute et écouter d'autres personnes de son âge. Voilà, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre à bras le corps ce qu'il y a de plus ingrat chez lui, à savoir peut-être son rapport à l'autre, pour essayer de se bonifier, pour essayer de faire place à l'autre dans sa vie. Et ce, comme vous l'avez dit très justement, par la parole et l'écoute.
Oui, il est à l'écoute des autres, à l'écoute de lui-même aussi, de ses incapacités, de ses limites, de ses réactions. Et c'est ça qui fait qu'on change de regard sur ce personnage, mais on n'en dira pas plus.
Il faut peut-être supposer effectivement que c'est par, et c'est un paradoxe, mais c'est une dialectique assez belle, je trouve, si tant est qu'elle soit vraie. On peut supposer que c'est par l'écoute de l'autre qu'effectivement, il va... peut-être mieux se traiter et se réconcilier avec lui-même. Ouais.
On va parler quand même de Marilyn, le personnage féminin. C'est un très très beau personnage qui revient de loin aussi. Après ses amours avec Octave, elle était dans une dépression grave. Elle a souffert d'amour, mais vraiment de manière extrêmement profonde, au point d'en être hospitalisée en psychiatrie. Elle a cheminé, elle est sortie, elle est en colocation avec Titus, elle est étudiante en histoire, et elle va continuer de dessiner. Il y a également les dessins, on voit également les dessins de Marilyn, et c'est un parcours absolument, j'allais dire, touchant que ce parcours de Marilyn. Il y a beaucoup d'émotions.
Oui, j'ai tellement voulu qu'il y ait une belle héroïne dans cette série. Je voulais pas qu'il y ait que des mecs, quoi. Et alors Marilyn, elle me touche parce que donc c'est une jeune fille qui vient d'un milieu social très modeste et elle rêve de devenir artiste. C'est son rêve. Elle voudrait être comme Elizabeth Payton, qui est une peintre américaine que moi-même j'adule. Alors voilà, c'est son phare. Et sa problématique à Marilyn, c'est que elle est quand même assez persuadée que tout ça, c'est pas pour elle, qu'elle n'y aura pas droit.
Elle est sous le coup d'un déterminisme de classe absolument phénoménal, quoi. C'est l'impression qu'elle ne pourra pas en sortir.
Ouais, elle a intériorisé effectivement ce fatum qui voudrait que elle n'aura pas le droit à tout ça. Ce sera certainement plus dur pour elle. Mais le but du livre, c'est de lui faire comprendre que si, bien sûr, elle a droit à ça. Et donc, elle va tout faire, cette Marilyn, pour contacter, d'une façon ou d'une autre, l'héroïne de sa vie, à savoir Elizabeth Payton. J'en dis pas trop, mais je voulais, en fait, c'est un peu mon sans comparaison, aucune une fois encore, mais j'ai un âge où j'ai un peu envie d'être dans la transmission. Je trouve que c'est très important d'être dans la transmission et j'ai un certain nombre d'amis qui ont 20, 25 ans de moins que moi. J'ai toujours adoré avoir des amis bien plus âgés que moi et des amis beaucoup plus jeunes. Et vraiment, un des grands plaisirs de ces relations amicales avec des gens plus jeunes, c'est d'être dans la transmission. Et donc, je voulais que cette partie, ce soit un peu mon lettre à un jeune poète à moi, quoi. C'est-à-dire... essayer de faire comprendre d'une façon ou d'une autre aux jeunes qui me lisent que il faut rien s'interdire et voilà, et je dis ça à un moment, quand on est artiste, si on a ça chevillé au corps, il faut s'en donner les moyens et ne pas se courber devant les soi-disant déterminismes qui sont très forts, qui font que, hélas, c'est plus dur pour certains et certaines que pour d'autres. C'est elle qui va devoir ouvrir les bonnes portes, hein, et parfois avec un coup d'épaule. Mais voilà, je voulais tracer l'itinéraire d'une future artiste et faire entendre dans ce livre Octave que c'est possible, quoi. Qu'on lui a rien apporté sur un plateau, mais pourquoi ce serait pas possible? Et donc voilà, c'est ce parcours-là qu'on suit d'une jeune fille qui est en train d'éclore à sa carrière artistique, à sa future carrière artistique.
Et puis il y aura aussi un cheminement amoureux, mais ça on n'en dira pas plus. Lisez Octave, c'est d'Arnaud Catherine, c'est paru dans la collection R chez Robert Laffont. Alors ça c'est maintenant, c'est pour tout de suite. Il y a des projets en cours, Arnaud Catherine ?
Oui, il y a un roman qui est en plein chantier, un roman que j'écris comme j'ai jamais écrit de roman, c'est-à-dire c'est un, pour l'instant un gros carnet de notes. Et j'ai une vague construction en tête, mais pour l'instant j'écris tous azimuts, pas du tout dans une continuité, dans une linéarité, j'ai jamais fait ça. Je prends des notes à n'en plus finir et puis je verrai à quel moment je passe à une continuité. Et je suis bien dans ce vaste chantier, je dois avoir 200 pages déjà de notes.
Ah oui, donc, c'est conséquent.
Mais enseignement de mon précédent recueil de nouvelles début de siècle, pour lequel je ne m'étais pas donné d'échéance, là pareil, je ne pense pas du tout au moment où je me mettrais vraiment à cette continuité. Je suis comme quelqu'un qui ferait la planche sur l'eau. J'emploie cette image parce que ça parle beaucoup de bord de mer et de nage, ce livre. Donc je me laisse porter par le courant et c'est très bien de ne pas savoir ce qui m'attend, où ça va, je dérive, voilà.
Eh ben, laissez-vous porter et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir aborder sur la rive avec un livre d'ici quelques temps. Merci beaucoup Arnaud Catherine.
Merci à vous.
À
merci.
Bientôt.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'était donc Arnaud Catherine sur Radio Libertaire. Arnaud Catherine qui nous parlait de son roman Octave, paru dans les collections R chez Robert Laffont. Et on va retrouver dans quelques instants Violaine Béraud avec un fascinant roman qui s'intitule C'est plus beau là-bas, roman qui est paru aux éditions Buchet-Chastel. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéo et Débat, avec le plaisir de retrouver Violaine Béraud pour un nouveau roman qui est paru chez Buchet-Chastel et qui s'intitule « C'est plus beau là-bas ». Alors, je dois dire que moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais je vous lis régulièrement Violaine Béraud et j'ai l'impression qu'avec celui-là, il y a eu comme un tournant. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que là, on a atteint un autre univers, d'une certaine manière.
Oui, je suis absolument d'accord. Il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, moi, j'écris depuis longtemps et j'ai écrit déjà une dizaine de romans et j'ai la hantise de toujours de me répéter. Donc, il y a un tournant dû à ça. Et puis, il y a aussi un tournant un peu en réaction à mon livre précédent qui s'appelait « Comme des bêtes ». Et qui a assez bien marché, mais suite auquel on m'a un petit peu classée dans l'idéaliste de la vie, du retour à la Terre, etc. Parce que c'est vrai que moi, j'expérimente une vie un petit peu particulière depuis 25 ans. Et certaines personnes avaient lu ce livre-là comme une idéalisation vraiment d'un retour à la Terre où tout était beau, tout était gentil, les animaux, la nature, les gens... Et donc, j'ai voulu un petit peu casser tout ça. C'est ça, le point de départ.
Alors, effectivement, puisque donc, on se retrouve avec C'est plus beau là-bas. Alors, avant de parler de l'histoire en elle-même et du personnage, il y a aussi ce choix d'écriture de la deuxième personne qui n'est pas neutre et qui donne un impact à la lecture extrêmement puissant.
Oui, mais ça... C'est tout l'intérêt de mon travail, je dirais, le travail de la forme. Ce qui m'intéresse, ce n'est jamais de raconter des histoires, mais de trouver comment raconter des histoires. Et comment raconter une histoire, c'est trouver quelle forme utiliser pour raconter de la façon la plus juste possible. Je ne sais pas le dire autrement que par le mot juste. Ce qui m'importe, c'est d'être juste. Et donc, moi, j'écris des livres très courts, toujours. Mais en fait, j'écris énormément de pages pour arriver à un livre très court. Je jette beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je teste plein de choses. Et la première, après avoir jeté des centaines et des centaines de pages, quand j'ai trouvé une écriture avec le « tu », un monologue, quelqu'un, ça peut être une personne qui se parle à elle-même à la deuxième personne, comme on dirait, mais ce que tu as fait aujourd'hui, comment on peut se le dire à soi-même. Là, il m'a semblé que j'étais juste. Et donc, je suis partie sur ce « tu », mais qui peut après aussi avoir plusieurs sens. Ça peut être... comme une sorte de Big Brother qui lui parlerait et qui verrait tout de lui. Ça peut aussi interpeller le lecteur à qui ça peut faire dire « tu ». Enfin, le « tu » m'intéresse beaucoup.
Ah ben là, il est d'autant plus intéressant que quand on est lecteur, ce qui est intéressant avec ce livre « Violaine Béraud, c'est plus beau là-bas » paru chez Buchet-Chastel, c'est qu'on est dans le flou permanent et dans le questionnement. Et on se dit tout le temps « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, moi, ça m'a profondément intéressée parce qu'on a beaucoup de romans qui actuellement prennent le lecteur à un point A et l'amènent à un point B en lui disant exactement tout ce qui se passe et également tout ce qu'il doit penser. Et ça, moi, j'en peux plus. Et c'est particulièrement pénible parce qu'on vous impose une philosophie, des idées, enfin, ce qui se veut, une philosophie d'ailleurs, et une histoire où le lecteur n'a pas sa place et vous, vous faites exactement l'opposé.
Ouais, mais je crois que je fais l'opposé parce que je suis une grosse lectrice moi-même et que j'aime pas qu'on me prenne pour une idiote en tant que lectrice. Donc j'aime qu'on me laisse ma place. Je fais ça aussi sans doute dans ce livre-là parce que je trouve que notre monde actuel soulève tellement de questionnements. J'ai pas la solution, mais je trouve que les questions, il faut se les poser. Il est très urgent de se les poser. Donc je veux pas faire... Je voulais pas faire un livre, une dystopie qui raconte exactement le monde tel qu'il pourrait être dans 2 ans ou dans 10 ans. Ça m'intéresse pas. Puis j'en suis pas capable. Je sais pas ce que va devenir notre société. Mais par contre, poser des questions qui sont, moi, les questions qui m'interrogent. La première question étant, comment fait-on pour être en cohérence entre nos belles convictions et notre façon de vivre, nos idées, nos actes, comment faire que ça coïncide, tout ça?
Alors, c'est effectivement une des thématiques du livre. On va parler un petit peu du personnage principal, ce tuc en question. C'est un professeur d'université. Alors, on ne le sait pas tout de suite, on va le découvrir progressivement. Bon, on imagine que c'est un homme d'un certain âge, il est marié, il n'a pas d'enfant. Voilà, on sait l'essentiel. Et puis, on va découvrir qu'effectivement, entre ce qu'on peut enseigner, ce qu'on peut philosopher, ce qu'on peut énoncer comme étant essentiel comme principe de vie ou comme principe politique, et ben parfois, on est très, très en deçà de ce point de vue. Et c'est une question qui, moi, m'intéresse beaucoup aussi parce que qu'est-ce que c'est qu'être en cohérence, justement, à la fois dans l'image extérieure qu'on peut donner et dans ce qu'il y a en soi?
Oui, moi, ça m'interroge beaucoup. En plus, j'ai écrit le livre en pleine période d'élection présidentielle. Et donc... je voyais nos hommes politiques, alors il y en a qui sont plus ou moins doués pour les discours, mais il y en a qui sont très doués à l'oral, qui sont des bons orateurs, et ça m'interroge beaucoup ce qui est derrière le personnage. Comment ils font pour avoir cette conviction? Bon, c'est sans doute des bons comédiens, hein, mais certains sont bons, certains sont mauvais, mais est-ce qu'ils croient un peu, beaucoup, à ce qu'ils disent? Comment ils vivent par rapport à ce qu'ils disent? Enfin, vraiment, ça m'interroge beaucoup. Et puis, en règle générale, je crois que j'aime beaucoup travailler sur l'apparence que l'on donne à l'autre et la réalité de ce qu'on est. Je parle, j'essaie de faire attention à ce que je dis, mais est-ce que ce que je dis correspond exactement à ce que je pense? Il y a le problème aussi de l'adéquation entre le langage et la pensée, ça aussi, ça m'interroge. Il y a les mots qui sortent plus vite qu'on a voulu, qu'on ne maîtrise pas, et pourquoi c'est ce mot-là qui sort et pas un autre? Ou ce geste, ou notre apparence qui en dit aussi beaucoup sur nous, en fait, tout ça m'intéresse beaucoup. La volonté de communication et ce qu'on communique indépendamment de nous ou ce qu'on cache dans la communication.
Oui, madame. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part. dans un monde de béton, aux arbres de barreaux fleuris, fleuris de désespoir. Inhumain, rétréci sans aucun lendemain. Sa bite en s'est glissée sous une grille à terre et dans un pololo pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. Et n'a même plus son ombre infidèle compagne. Elle s'en est allée, refusant d'être esclave de ce vivant morné. Il tourne, il tournera toujours, jusqu'au jour où vaincu en animal blessé. Après avoir gémi en une unique plainte, il tombera à terre et se laissera crever, pour trouver dans la mort sa seule liberté. Fleury Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleury Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, oh voilà une erreur. Mais c'est un homme, madame, il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont si bien condamné. En rendant la justice au nom des libertés, liberté. Et Fleury Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleury Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Mesrine. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part. Dans un monde de béton, aux arbres de barreaux fleuris. Inhumain, rétréci sans aucun lendemain. Sa bite en s'est glissée sous une grille à terre. Et dans un bol de l'eau pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. Hey Fleury Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleury Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Mesrine. Vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. C'est un homme, madame. Il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont si bien condamné, Mesrine. En rendant la justice au nom des libertés, Mesrine. Il tourne, il tourne, il tournera toujours, Mesrine. Jusqu'au jour où vaincu en animal blessé, Mesrine. Il tombera à terre et se laissera crever.
Mais ce qui est intéressant également, et on le voit très bien au travers de votre personnage, Violaine Béraud, c'est qu'on peut être dupe de sa propre image. C'est-à-dire qu'on peut très bien se rendre compte que l'intérieur de soi n'est pas forcément en cohérence avec les propos qu'on peut émettre, ou pas. Et on s'aperçoit que ce personnage va se laisser prendre au piège de ses propres mots, de sa propre image. Et ça, c'est particulièrement intéressant, parce qu'on a tous des exemples en tête où ça nous est arrivé.
Oui, oui, oui. Et puis quelqu'un qui a accès à un micro, qui a accès à un public, comment fait-il pour ne pas être grisé par ça ? Ça donne du pouvoir. Moi, à mon tout petit niveau d'auteur qui veut rencontrer des lecteurs, je me rends bien compte que dès que j'ai accès à un micro, j'ai un pouvoir. Et donc, comment ne pas être grisé ? Comment faire pour pas que ça monte à la tête ? Et comment ne pas se déconnecter de la réalité de sa vie ?
Mais globalement, C'est plus beau là-bas pose la question de qu'est-ce qui constitue notre identité propre aussi.
Oui, c'est vraiment un livre plein de questions sur l'existence, sur... Je crois que... Moi, je me questionne en permanence. Moi, j'ai fait un choix de vie il y a plus de 25 ans. Je suis ingénieure en intelligence artificielle. Et j'ai tout abandonné il y a 25 ans pour aller m'installer dans la montagne et aller élever des bêtes en montagne. Et vivre une vie qui me paraissait avoir du sens, où je gagnais beaucoup moins d'argent, mais où j'arrivais quand même à vivre. J'avais le minimum pour vivre. J'étais heureuse. Je crois que c'est ça, en vous le disant, j'entends ce que je dis. Et je crois que, pour moi, le sens de la vie, c'est le bonheur. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre ça ? Mais ça, on ne nous le dit jamais. On nous dit faut gagner du fric, faut avoir un emploi le plus valorisant possible. Mais être heureux, est-ce que ce n'est pas ça le départ ? Est-ce que ce n'est pas être heureux ? Et ce professeur, dans mon livre, il a théorisé, il a travaillé pendant 30 ans de sa vie sur comment créer une société idéale. Mais est-ce que le bonheur, est-ce qu'il a travaillé dessus ?
Mais il ne s'est jamais posé la question, même pour lui-même.
Mais il ne se l'est pas posé pour lui-même. Et de toute manière, sa société idéale, c'est un théoricien. Il ne la voit que dans la théorie. Il n'a pas du tout envie que ça s'applique à lui-même.
Pas du tout.
Il a envie que les jeunes s'en emparent. Il a envie d'avoir... Je pense qu'intellectuellement, ça l'intéresse, parce qu'il avance dans un domaine qui lui plaît intellectuellement. Il voit en plus que ses étudiants sont emballés par ce qu'il propose, donc c'est très valorisant pour lui. Mais de là à vouloir la vivre, c'est difficile. En plus, je pense qu'il y a un problème aussi de génération. J'ai l'impression que plus on avance en âge, moi j'ai l'impression que les gens de ma génération, donc la cinquantaine, ont peur de bouger, parce qu'ils ont peur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de lâcher tout ce qu'ils ont mis en place dans leur vie. Et ça, c'est dramatique, parce qu'ils ont des enfants, des petits-enfants, parce qu'ils ont un métier, un salaire, ils ont une maison, ils ont acquis des choses qui les bloquent, qui les cadenassent complètement. Et puis, ce confort, ils s'y sont habitués, ils ont l'impression qu'ils ne pourraient pas vivre autre chose. C'est plus facile de rester dans sa zone de confort, oui.
Oui, et puis il y a cette absence de questionnement même sur sa propre vie, parce que si on revient à votre personnage, sa vie va basculer, on ne va pas trop déflorer l'histoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment donné, lui qui est donc professeur d'université, qui a sa bulle intellectuelle, qui théorise en permanence, mais qui n'a aucune introspection par rapport à sa propre vie, qui n'a vraiment rien du tout, qui est tout le temps dans l'abstrait et pas du tout dans le réel, sa vie va basculer. Et monsieur le professeur d'université va devenir un anonyme au milieu d'anonymes dans une situation inattendue qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas justement essayer d'expliquer par des mécanismes intellectuels. Et c'est tout ça qui va le faire basculer. Parce qu'effectivement, au cours de cette expérience qu'il va vivre, il va se rendre compte de plusieurs choses, qu'il vit avec une femme depuis extrêmement longtemps, mais qu'il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et donc, il va être. On est tout le temps dans le jeu sur les incertitudes aussi. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire C'est quoi aimer? Est-ce qu'on peut de nouveau tomber amoureux? Est-ce que cet élan amoureux peut redisparaître? On a un ping-pong permanent. Donc ça, c'est pour les sentiments. Et puis, il y a également le rapport au corps, parce qu'il ne s'est jamais posé la question de son rapport au corps. Et là, il va être de nouveau avec une enveloppe corporelle avec laquelle il n'était absolument pas connecté au préalable. Donc, il y a les deux pans. Oui. Il y a le pan émotionnel et le pan corporel qui était mis complètement de côté avec simplement cette bulle de construction d'une société idéale.
Oui, oui, oui. Il n'était intéressé que par cette bulle intellectuelle, puisque c'est là qu'il brillait. En fait, c'est ça, je pense. On a tous tendance à chercher ce qui nous réussit le mieux. Quelqu'un qui va être brillant face à un auditoire, brillant dans sa réflexion intellectuelle, il va être tellement à l'aise là-dedans que du coup, il en oublie tout le reste. C'est quelqu'un qui est capable de très, très bien communiquer avec ses étudiants dans un micro, mais qui, s'il les croise dans le couloir, n'est pas capable d'avoir une conversation normale avec l'un d'eux. Il ne sait pas communiquer. C'est un très grand communicant qui ne sait pas communiquer. C'est quelqu'un qui va réfléchir à l'amour et avoir des grandes théories et se dire je vais retomber amoureux de ma femme, mais qui, quand il se retrouve avec sa femme, n'est plus capable de rien. Parce qu'il ne sait pas parler, parce qu'il ne sait pas. Il n'a ni le langage dans le lien intime, on va dire. Ni le langage, la parole, ni le langage du corps, il n'y a plus rien. Il ne connaît pas son corps, il ne sait pas s'exprimer en dehors de la théorie. Moi, j'ai travaillé dans mon précédent roman, dans Comme des bêtes, sur ces gens qu'on dit dans nos sociétés, je mets des guillemets, anormaux, et qui relèvent de la psychiatrie. Mais qui sont les anormaux dans notre monde? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que c'est normal d'être brillant d'un côté et aussi mauvais, nul en société de l'autre, alors qu'on travaille sur la société?
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est dans la communication et non pas dans la relation. La communication oui. s'adresse à tout le monde et à personne en de manière précise, et la relation implique qu'il existe un lien entre une personne et une autre. Et ça, l'établissement de ce lien, il en est totalement incapable.
Il en est absolument incapable. Le lien ne l'intéresse que si c'est pour le placer lui au-dessus des autres. En fait, moi, quand j'ai écrit ça, on peut le voir à moitié dans le livre, mais c'est assez discret. J'avais en tête la vie de Jésus. Et en fait, j'ai pris... Alors, ça ne se passe pas du tout à la même époque. Ça ne se lit pas du tout comme une vie de Jésus, mais moi, ça fait partie de mes contraintes d'écriture que je me donne pour avancer dans l'écriture. J'ai pris des épisodes marquants de la vie de Jésus et je me suis dit, je vais prendre ces épisodes, les mettre dans n'importe quel sens, je ne respecte pas la chronologie de la vie de Jésus, et je vais les utiliser comme différentes étapes du parcours de cet homme dans mon livre. Parce que Jésus, je trouve, Jésus, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui... a un don oratoire, qui ouvre grand ses bras, qui paraît très généreux, qui est pour l'entraide, pour aider tout le monde, qui est capable de miracles, mais il est capable de miracles parce qu'il a une telle foi en lui que ça lui donne un pouvoir énorme. On le sait que si on croit fort en nous, on va faire du bien aux autres. Et donc, cette personne-là, moi, Jésus m'intéresse. Et je me dis, mais il était comment, Jésus, en dehors de ça, quand on le retrouve dans l'intimité, quand il n'a plus cette aura autour de lui. Et voilà, c'est un peu de personnages comme ça que je suis partie.
Oui, alors ce personnage qui, lui, donc, va du jour au lendemain quitter son piédestal, puisque c'est le cas, et sa chaire d'université pour se retrouver prisonnier anonyme dans un hangar avec des conditions de détention qui sont absolument horribles. Là aussi, moi, je dois dire que j'ai été intéressée vraiment par l'écriture de ce livre où chaque chapitre a sa tonalité propre. Vous avez aussi, par rapport à la construction et l'écriture, créé des ambiances extrêmement fortes.
Oui, mais ça, c'est vraiment ce que j'adore faire en écriture. C'est toujours pareil, c'est toujours la forme, ce qui m'intéresse. Je pars d'un thème ou d'une idée, mais très vague, très générale. Et puis après, je veux prendre le lecteur aux tripes, je veux créer une ambiance, je ne sais pas comment dire, je veux qu'il soit embarqué avec moi. C'est peut-être pour ça que c'est très court, mais du coup, je travaille vraiment la forme de chaque phrase, je travaille chaque chapitre, chaque paragraphe, chaque chapitre, pour les virgules, pour savoir exactement la ponctuation, le rythme, le son, le ton. J'ai l'impression parfois que de travailler mes textes comme je travaillerais de la musique. Je ne suis pas du tout musicienne, mais j'ai l'impression d'écrire comme je composerais de la musique. Il faut que ça sonne juste, c'est toujours pareil. Et comme ce roman-là commence avec cet homme qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, qui se retrouve enfermé, je ne vais pas en dire trop, hein, mais qui se retrouve enfermé au milieu d'autres hommes et qui ne comprend pas pourquoi il est là, qui ne comprend rien à ce qui s'est passé dans la France d'aujourd'hui et qu'est-ce qui lui arrive à lui. Le stress de cet homme, il fallait qu'il ressorte dans l'écriture, dans le rythme de l'écriture. Le stress ou la panique ou l'incompréhension, les pensées dans tous les sens, comme c'est un monologue, c'est un questionnement intérieur. Et quand on se questionne, enfin, je pense que mon cerveau fonctionne comme celui de tout le monde, hein, c'est pas moi qui suis tordu, mais on a. Les pensées se suivent sans logique. Elles se bousculent. Et donc, comment. Je me suis posé la question de comment arriver à traduire ça par l'écriture. Et la façon de le traduire, pour moi, ça a été de faire des petits paragraphes qui commencent tous en cours de pensée. Parce que j'ai souvent l'impression dans ma tête qu'une pensée arrive par-dessus une autre, sans lien, et comme s'il me manquait le début. Pourquoi je suis arrivée à cette pensée-là? Donc je joue avec les conjonctions de coordination, en fait, mais où est donc ornicar? Tous mes paragraphes commencent par une conjonction de coordination, ce qui est aberrant, une phrase ne peut pas commencer par une conjonction de coordination, mais parce qu'on est pris dans ce flux de pensée. Mais ça, c'est presque ma soupe technique pour arriver à à donner du rythme au texte.
Oui, ça a du rythme. Et puis en même temps, à partir du moment où ça bascule pour cet homme, on est plongé, celui qui avait les certitudes bascule dans le doute et l'incertitude, et le lecteur avec lui. C'est-à-dire qu'on est comme lui, on est perdu, on ne sait pas, et on va cheminer avec lui de la même manière, c'est-à-dire dans le doute. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage, bon, qu'on a décrit de manière un petit peu schématique, Il n'est pas aussi caricatural que ça, parce que on passe notre temps à se poser des questions sur lui, et c'est pas manichéen, c'est pas un gentil et c'est pas un méchant non plus. Il est un peu tout à la fois, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du livre, c'est qu'on a quand même une possibilité d'identification par certains traits, et on n'est pas dans le jugement.
Oui, alors ça, ne pas être dans le jugement, c'est aussi ce que j'essaie de faire dans tous mes livres. Heureusement que vous ne lisez pas mes premiers jets, parce qu'ils sont beaucoup plus dans le jugement. Et c'est vraiment en retravaillant le texte que j'essaie absolument d'enlever ça. J'aurais tendance, moi, surtout dès que ça devient un peu politique, à être beaucoup dans le jugement. Et donc, voilà, j'essaie d'enlever, j'essaie de surtout pas avoir des personnages... tout mauvais ou tout gentil, et d'essayer d'équilibrer ça, qu'il soit humain tout simplement. Et donc ça c'est à force de retravailler aussi l'écriture que je peux essayer d'arriver à ça.
Alors cet homme va cheminer, c'est le moins qu'on puisse dire.
Pardon, je vous interromps juste sur une chose, parce que vous avez dit que il était, je reviens sur le début de votre question tout à l'heure, vous disiez que il chemine sans savoir où il va et que le lecteur est un peu bousculé avec lui, amené avec lui. Et je voulais juste ajouter que moi, en tant qu'auteur, il m'est arrivé la même chose. C'est-à-dire que je me suis fait, à partir du moment où j'ai trouvé le début du texte, ce qui m'a pris du temps, mais à partir du moment où j'ai eu le tout début, c'est-à-dire le premier paragraphe du texte, je suis partie dans ce texte sans du tout savoir où j'allais. Je n'avais aucune idée de où j'allais. Et j'ai vraiment la même sensation que lui. J'étais aussi perdue que lui et je cheminais avec lui, ce qui m'a sans doute aidée à me poser des questions comme il se pose des questions.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État,
pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
Je veux dire quand même un mot, Violaine Béraud, à propos du titre de ce roman paru chez Buchet-Chastel, « C'est plus beau là-bas ».
Alors, les titres de romans, c'est très particulier pour moi, les titres de romans, parce que moi, je veux parfaitement maîtriser mes textes, c'est-à-dire que quand j'envoie mon texte à mon éditrice, c'est un texte absolument fini, où on ne bouge à deux mots près, on ne bouge plus rien dans le texte. Mais par contre, je suis très mauvaise pour trouver des titres. Et donc, ce que j'ai fait pour ce livre-là, c'est que je fais une liste d'une dizaine de titres possibles, qui sont toujours des extraits du texte. Et parmi les titres que j'avais proposés, donc il y en avait une dizaine, il y avait « C'est plus beau là-bas », mais qui pour moi n'était pas forcément meilleur qu'un autre, mais je suis absolument incapable de juger si un titre est bon ou pas. Je me rends compte ça avec des années de recul après, je me rends compte si j'aime le titre ou pas, mais après avoir écrit le livre, c'est pas possible, je n'ai aucune lucidité sur un titre. Et « C'est plus beau là-bas », qui a été tout de suite choisi par l'éditrice, finalement, bon, j'ai pas encore beaucoup de recul, le livre est assez jeune, mais finalement me plaît bien parce que ça veut tout dire et n'importe quoi, et c'est aussi flou, je trouve, que mon personnage. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut aller là où c'est plus beau, si ça veut dire que c'est toujours mieux ailleurs, l'herbe est plus verte chez le voisin. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Alors, pour terminer, Violaine Béraud, c'est vrai qu'on a dit que ce personnage, eh ben, on a du mal à le situer du côté des bons ou des méchants, parce qu'il est comme nous, il est un peu tout à la fois, il est gris. Par contre, c'est l'occasion pour vous, effectivement, de porter un regard sur le monde qui nous entoure, sur cette société, sur les différences entre les générations, sur ce qu'on nous impose, ce qu'on nous fait vivre, l'absence de réaction, le côté coincé que vous évoquiez tout à l'heure. Et ça, c'est des phrases au scalpel.
Oui, mais parce que ça me paraît tellement évident, toutes ces choses-là, que j'ai besoin de les dire, mais sans m'étaler dessus. J'ai pas besoin d'en faire 10 pages, je fais pas une thèse sur ça. Donc c'est juste des choses qui sont des évidences pour lui. Donc, on ne s'appesantit pas, on sort la phrase et puis on passe à autre chose. Et c'est tout sur la peur de quitter son petit confort. Voilà, on le dit une fois et on passe à autre chose. Mes phrases au scalpel, ben j'espère qu'elles le sont au niveau du style, au niveau du travail, de la langue. Et j'espère qu'elles font un peu des gifles. Je ne sais pas que je veux être méchante avec mes lecteurs, Mais oui, des coups pour les gens, quoi qu'elles soient bien claires. L'important pour moi, c'est que ce soit clair et que ça ébranle, et puis qu'à partir de là, ça donne envie de réfléchir. Moi, je dis souvent que parler de tout ça avec mes amis, c'est trop facile, parce qu'ils ont les mêmes idées que moi. Et j'ai la chance d'être auteur et d'avoir dans mon public des gens de tous horizons, et pas du tout forcément des mêmes idées que moi. Et ça me permet d'atteindre un public, un lectorat qui n'a de commun avec moi que d'aimer lire et que je peux éventuellement amener à réfléchir sur ce qui moi m'intéresse.
Oui, ben là, je pense que c'est le cas avec ce livre, Violaine Béraud. Alors, ce personnage aura un chemin, finalement. On ne va pas dévoiler l'histoire, mais d'une certaine manière, pour lui, ça va être un véritable parcours initiatique.
Oui. Mais je crois que c'est important de se dire que même si on ne veut rien bouger à sa vie, peut-être on peut toujours avancer dans sa vie quand même. Même si on n'a a priori pas envie de bouger, même si on a a priori peur de bouger, si les événements nous secouent suffisamment pour nous obliger à bouger et qu'on n'ait plus le choix, peut-être on peut profiter des événements à ce moment-là pour vraiment avancer et vraiment décider où c'est plus beau pour nous, non pas là-bas, mais où c'est plus beau pour nous. C'est ça l'important.
Le côté acteur de sa vie.
Exactement, et devenir acteur de sa vie, oui, vraiment.
Ça s'appelle « C'est plus beau là-bas », c'est paru chez Buchet-Chastel, c'est de Violaine Béraud. Alors, question habituelle dans cette émission, le livre existe. Est-ce que vous avez déjà des idées pour un prochain? Parce qu'on évoquait ce tournant d'écriture, est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à se préciser?
Il y a un thème qui m'intéresse. Après, pour le moment, je mets tout à la poubelle, donc ça veut dire que je n'arrive pas à trouver la forme, mais ça viendra. Je veux parler de notre rapport à la mort.
Ah.
Je trouve qu'on a vraiment un problème de rapport à la mort dans notre société, et je veux faire quelque chose autour du rapport à la mort. Pas quelque chose de triste du tout, moi j'ai un rapport très apaisé à la mort. Et j'ai vraiment envie d'en parler. J'ai un rapport apaisé, peut-être aussi parce que j'ai été éleveur pendant longtemps dans ma vie et qu'un éleveur, il a forcément avec ses bêtes un rapport à la mort aussi. Voilà. Donc je veux parler de ça. Je n'arrive pas à trouver comment je vais en parler, mais bon, je trouverai, même s'il me faut 3 ans pour trouver, je trouverai. Ouais.
À suivre. En tout cas, merci beaucoup, Violaine Béraud. En attendant, lisez C'est plus beau là-bas. C'est paru aux éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour que la belle arrive, il faut avoir gagné dans un excès de confiance, avoir perdu après, adieu les téléphones, les rendez-vous plombés, adieu toutes les autres. La belle est arrivée, adieu la vie des hommes, les saints du calendrier. Pour le temps qui me reste, la belle est arrivée. Pour que la belle arrive, il faut avoir perdu dans un dernier coup de rein. Avoir gagné après, il va falloir se battre, il va falloir gagner. Adieu toutes les autres, la belle est arrivée. Adieu la vie des hommes, les saints du calendrier. Pour le temps qui me reste, la belle est arrivée. Pour que la belle arrive, il faut avoir perdu dans un dernier coup de rein. Avoir gagné après, il va falloir se battre, il va falloir gagner. Adieu toutes les autres, la belle est arrivée.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission d'Idéo et Débats. On a parlé d'Octave avec Arnaud Catherine, roman paru dans la collection R chez Robert Laffont. Et on a parlé de C'est plus beau là-bas
de Violaine Béraud, paru chez Buchet-Chastel. Je vous recommande de lire ces deux livres. Et puis d'ici la prochaine émission, restez à l'écoute de Radio Libertaire. La prochaine émission sera une émission un petit peu spéciale. On va se faire plaisir, c'est la fin d'année. Et ce sera une émission consacrée entièrement à Alien. Et oui, on retourne dans nos premières amours de science-fiction. Et on aura la joie d'interviewer Nicolas Martin et Simon Rio pour un superbe ouvrage qu'ils ont concocté à deux avec plein de participants. Ouvrage qui s'intitule « Alien, la xénographie » et qui est paru aux éditions ActuSF. Alors avant qu'on se retrouve dans deux semaines pour parler d'Alien, n'oubliez pas que dans l'espace, personne ne vous entend crier. Alors restez à l'écoute de Radio Libertaire, c'est 89,4 MHz.
Radio Libertaire.
Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître?
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.